Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des films de la Gorgone. Sur le site des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, vous pouvez télécharger nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.fr.
Tu veux passer à l'action dans la rue? Sois libre comme l'air. Tout ce qui est entré dans ta vie, tu dois pouvoir t'en débarrasser en 30 secondes, montre en main, avant que ça se mette à chauffer dans le coin.
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à l'un des plus grands réalisateurs en activité, Michael Mann. Lors de l'édition 2017 du Festival Lumière à Lyon, il est venu s'exprimer sur son cinéma et plus particulièrement son nouveau montage de Hit. L'occasion pour nous de rendre hommage à un metteur en scène qu'il est de bon ton aujourd'hui de conspuer. Il suffit pour s'en persuader de voir l'accueil critique réservé à son excellent Hacker. Nous tenons à rétablir notre vérité sur ce très grand cinéaste que nous adorons. Pour ce faire, nous avons reçu le concours d'un petit nouveau, Pierrick Faure, alias le Captain, qui, dans le civil, est un designer passionné de scénographie du cinéma, et il nous a fait l'honneur de capter quelques propos du grand Michael Mann, et on tenait donc à le remercier pour son aide. Pour causer Mann, je suis accompagné d'un homme, que dis-je, d'un lycanthrope. Et oui, je veux bien sûr parler de celui qui, chaque nuit, de pleine lune, se transforme en une sorte de créature hirsute qu'on appelle loup-garou picard et qui s'en va rédiger, avec ses griffes acérées, des chroniques sanguinolentes pour le compte de la revue Vidéotopsie, vidéotopsie.blogspot.fr et culturo.culturo.com. Salut Thomas.
Salut GG, bonjour à tous et à toutes.
Alors Thomas Roland, mon ami, toi, tu es manien, on peut dire comme ça, tu es friedkinien, tu es manien, c'est parti des deux réalisateurs contemporains, je pense, qui comptent, enfin, en tout cas, peut-être le plus à tes yeux, ou en tout cas, qui font partie vraiment de tes deux ou trois préférés, voilà. Alors, avant de revenir peut-être plus en détail sur son cinéma et sur ce nouveau montage de Hit, on va peut-être parler du parcours de Michael Mann, qui est un type de Chicago, hein, qui est né à Chicago, qui est un pur produit des États-Unis, hein. Mais pas que, parce qu'il a vécu quand même 7 ans au Royaume-Uni. Et puis, il est rentré aux États-Unis pour commencer une carrière de scénariste de séries télé. Par exemple, une série dont on a, il n'y a pas longtemps, parlé dans l'émission, parce qu'on a fait une émission sur Las Vegas au cinéma. Je ne sais pas si tu te rappelles, Thomas, hein, une émission dans laquelle on avait mis en générique d'ouverture, justement, cette série qui s'appelle Vegas. On avait mis la version française du générique. Et il a débuté sur cette série. Et puis aussi, il a débuté sur Starsky Hutch, Thomas.
Et oui, il était scénariste sur 4 épisodes de Starsky Hutch, 3 épisodes de la première saison et 1 épisode de la deuxième saison. Alors, je me suis refait les 4 épisodes en question un dimanche après-midi et j'ai pu constater des choses qu'on retrouve dans ces films, notamment je pense à une scène où Starsky Hutch vont déloger un malfrat dans son camping-car et l'un des deux compères se munit d'une d'une boîte à pizza qu'il trouve dans une poubelle pour pouvoir frapper à la porte du malfrat. Et la scène, c'est exactement celle qu'on trouve dans Miami Vice, telle qu'elle est écrite et mise en scène dans Miami Vice. Mais c'est exactement la même scène. Mais surtout, ce que je retrouve dans ces épisodes de Starsky Hutch, ce sont ces quatre épisodes, d'une manière ou d'une autre, ce sont des épisodes qui tournent autour d'une femme, toujours. Il y a toujours une histoire de femme dans ces épisodes-là. Alors, il y a une femme qui se fait kidnapper à un moment. Il y a une histoire, c'est un serial killer, tueur de femmes. Et il y a toujours une histoire de femme. Et le cinéma, pour moi, c'est vraiment l'essence du cinéma. C'est l'une des essences du cinéma de Michael Mann. C'est ces histoires d'amour où les femmes sont un peu le moteur de l'action. Je pense notamment à Miami Vice. Il y a cette double histoire d'amour entre le personnage de Jamie Foxx et Naomi Harris. Il met très bien ça en évidence, notamment vers la fin, où elle se fait enlever par des néo-nazis. Ils vont la délivrer. Il y a vraiment toute une partie vraiment sentimentale et mélancolique par rapport à ça. Et il y a aussi cette histoire d'amour entre Sonny Crockett et le personnage incarné par Gong Li. Et moi, je trouve que Miami Vice, malgré les défauts du scénario, etc., c'est un film que je trouve vraiment cosmique, quoi. Quand on les voit, la balade en hors-bord sur l'océan à perte de vue, je trouve que c'est cosmique. Il y a une ampleur dans la mise en scène, il y a un lyrisme, je trouve, qui est particulièrement... c'est du pur Michael Mann, quoi.
Un peu revenir en arrière dans la carrière de Michael Mann, hein, puisqu'on a décidé de revenir en détail sur le réalisateur. Alors, on parlait de son travail de scénariste et puis aussi à la télé, hein, et entre autres sur Starsky Hutch, hein, et puis comment il faisait quand il y avait une fille entre les deux, il respectait les règles du jeu, voilà, pour reprendre le générique français. Et surtout, moi je voulais revenir, parce que c'est pas connu en France, on l'a vu, toi et moi on l'a vu, hein, sur ce premier vraiment film, qui est un téléfilm en fait de Michael Mann, qui s'appelle Comme un homme libre, avec James Caan. Alors James Caan, qui va être un peu au début son acteur fétiche, hein, puisqu'on va le retrouver dans l'excellent et très sous-estimé, hein, mais qui a été réévalué avec le temps, Le Solitaire, où il campe une sorte de, comme ça, pareil, avec une histoire d'amour, hein, magnifique, et puis une sorte de film très mélancolique, je trouve, où il campe une sorte de perceur de coffre, mais qui serait presque d'un autre temps, perdu dans une époque qui n'est pas la sienne. Enfin, très beau film, très romantique, c'est un cinéaste romantique, vraiment, Michael Mann, au sens complètement littéraire du terme, hein, voilà. Et pas au sens caricatural. Et puis il y a ce « Comme un homme libre », qui est un film quand même, qui est un téléfilm, bon, qui qui est assez exceptionnel, je trouve.
Comme beaucoup de téléfilms américains, je trouve que les téléfilms américains en général, ça rapproche plus du cinéma que vraiment du produit télévisuel. Et là, on sent vraiment. Je trouve qu'il y a déjà la thématique principale de Michael Mann, c'est-à-dire, comme le titre français l'indique, comme un homme libre, c'est ces individus qui sont emprisonnés dans un système, dans une société qui les broie, qui les empêche d'être ce qu'ils sont vraiment. Et il y a cet homme qui aspire quelque part à la liberté, qui va jusqu'au bout de ses idées, car les personnages de Michael Mann, ce sont des personnages qui vont jusqu'au bout de leurs idées. Ce sont des jusqu'au boutistes, ce sont des idées. Et ce téléfilm, moi je l'avais vu il y a longtemps, comme toi certainement, à l'avenir du futur, un lundi soir. Et ce téléfilm, je trouve qu'il est particulièrement marquant sur ce thème de la liberté et du libre arbitre. C'est un film aussi qui parle beaucoup du libre arbitre. C'est un film une autre thématique qu'on peut retrouver par exemple dans Public Enemies. C'est donc un film qui parle d'un détenu qui va courir ce qu'on appelle le Jericho Mile, c'est-à-dire le titre original du film c'est The Jericho Mile, et qui va courir le mile et qui va le remporter. À partir de là, il sera réhabilité aux yeux de la société. Mais seulement vu que c'est un meurtrier, on l'apprend plus tard dans le film ce qu'il a vraiment fait. Vu que c'est un meurtrier, pour certains, il restera toujours un meurtrier. Il ne pourra jamais être réhabilité. Donc il y a toujours quelque part ce thème de la double peine dans ce film-là. Et c'est quelque part quelque chose qu'on retrouve aussi, je trouve, dans Public Enemies, quelque part. Le personnage de John Zinger, qui n'est pas finalement... que Michael Mann aime bien. Hein. Il aime bien son personnage de John Zinger, qui est finalement une sorte de Robin des Bois moderne. Bon, avec des méthodes un petit peu plus expéditives parfois, mais c'est finalement un personnage qui se retrouve plus du côté des prolos que de l'institution.
D'ailleurs, c'est rigolo de voir la manière dont le Public Enemies a été aussi très décrié comme film, parce que c'était les débuts des essais de Michael Mann avec les nouvelles caméras vidéo. Enfin, il faisait des choses intéressantes. C'est vrai qu'il y a parfois des choses moins réussi que d'autres, mais enfin, le film est passionnant, tout de même, tellement au-dessus du tout venant. Et il y a, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la manière, parce que Dillinger a été illustré par deux cinéastes qui sont un peu aux antipodes, mais l'un de l'autre, puisque le cinéaste nietzschéen du virilisme, John Milius, à travers un film, très, très bon film, d'ailleurs.
C'est pas son premier film.
Son premier film, avec Warren Oates, qui campe un Dillinger très, très, très dur, très, très viril, mais qui en même temps... on sent une attirance aussi chez Milius pour le Dillinger, c'est-à-dire qu'il le mythifie aussi. Et on retrouve ça un peu chez Mann, qui aime... Parce que Mann, il y a quand même une méthode de travail qui est particulière. C'est-à-dire qu'il va au plus près... Alors, ce qu'il y a dans ses films, c'est quand même au plus près de la réalité. Il partage ça avec Friedkin aussi. C'est-à-dire qu'il se renseigne énormément, il travaille énormément, il est pote avec plein de flics, il a plein d'infos, il sait plein de choses. Ses films ne sont pas du tout faits au hasard. C'est vraiment... c'est des œuvres de fiction, mais qui se nourrissent de choses réelles. Et son Dillinger, à lui, il est à la fois très différent de celui de Milius. Je pense qu'il est plus documenté. Son film fait moins série B que le film de Milius. Mais ils illustrent tous les deux, chacun à leur manière, le fait que Dillinger, c'est un héros américain. Et c'est toute l'ambiguïté. Et ça, c'est quelque chose qui revient constamment chez Mann, et chez Milius, c'est-à-dire que c'est des héros ambigus, mais on sent qu'il y a une volonté de les mythifier. Moi, je suis désolé, ce qu'on voit là dans le film de Michael Mann, qu'on voit dans Heat, c'est pareil. Heat, c'est l'affrontement, pas des dieux, mais enfin de mythes, quoi, de deux dieux, oui, on peut dire ça comme ça, de deux dieux. Ils sont tellement puissants qu'on peut même pas supporter de les voir en même temps à l'image, puisque c'est Pacino et De Niro qui sont des dieux de l'acting, parce que bon... On pense ce qu'on veut de leur fin de carrière, mais c'est quand même des acteurs immenses. Enfin, des acteurs comme on n'en voit que 5 ou 6 dans une génération. C'est des acteurs monstrueux, quoi. Et ils sont complètement mythifiés par Mann, qui a, pour moi, cet aspect romantique qu'a Milius aussi. C'est-à-dire c'est des cinéastes aussi qui ont un côté romantique dans leur cinéma, et c'est complètement assumé, beaucoup moins chez Milius, mais complètement assumé chez Mann, y compris effectivement leur relation qu'il y a entre Pacino et De Niro dans Heat. C'est pas de la haine, quoi. C'est vraiment
c'est du respect
réciproque entre deux géants. C'est un peu, si on veut faire un parallèle un peu hasardeux, c'est un peu comme une relation entre Ayrton Senna et Alain Prost. C'est-à-dire que Ayrton Senna a essayé de tuer Alain Prost sur les circuits en lui rentrant dedans, tout ça et tout. Mais il y a une sorte de respect mutuel entre eux, parce que ce sont des monstres, quoi, dans leur domaine. Là, dans le film de Mann, l'un est un bandit, l'autre est du bon côté du manche. Mais bon, voilà.
Then in a little while he'll take my hand, and though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe he'll come someday, one day, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure that he'll come someday, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home that's meant for two, from which I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love. Maybe he'll come someday, one day, maybe Monday, maybe not. From which I'll never roam. Oh, what would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love.
Vous écoutez Culture Prohibée spécial Michael Mann.
Je rebondis sur le fait que tu dis que ces personnages sont comme des dieux. Et je pense ça aussi. Et moi, je me demande si Michael Mann n'aime pas ce film. Enfin, je me demande si en fait il l'aime. Il aime ce film de King Vidor, ce film que j'adore, The Fountainhead, Le Rebelle, un film avec Gary Cooper. Donc, c'est l'histoire d'un architecte, d'après un roman de la romancière préférée de Donald Trump, Ayn Rand. Donc, c'est plutôt un roman de droite, hein. Et le film est très ambigu. C'est un film individualiste, à la gloire de l'individualisme, dans l'individualisme personnel, pas économique, hein. Mais et ce personnage de Gary Cooper, qui est architecte et qui construit des immeubles vraiment avant-gardistes pour l'époque. Et il y a quelque chose de King Vidor dans la mise en scène de Michael Mann. Notamment, il y a une image qui revient souvent dans ses films. On la voit dans Le Solitaire, on la voit dans Public Enemies, il me semble, on la voit dans Miami Vice, on la voit, je crois, aussi dans Heat. Ce sont ces personnages qui discutent en haut d'immeubles. Alors, soit ils fomentent un plan, et ces personnages sont souvent campé dans les airs, quoi. Et parfois avec un ciel cadré derrière, immense. Il y a quand même, il y a ce côté olympique chez Michael Mann. Ces personnages sont littéralement... Moi, je pense que c'est littéralement des dieux. Et je pense que Michael Mann aime ce film de King Vidor. Je pense qu'il y a une influence de ce film de King Vidor dans sa mise en scène. Et ça, c'est quelque chose qui est frappant. Quand on regarde ces films, il y a ces plans qui reviennent régulièrement. Et ces personnages sont bigger than life.
Il y a de ça dans Hacker aussi. Hein. Je veux dire, dans Hacker, c'est clair que Chris Hemsworth, il règne sur un monde. Hein. C'est, voilà, il est au-dessus des autres et il règne sur ce monde. Voilà, c'est Hacker, c'est quand même un film mal aimé qui est un très grand film, hein, pourtant, hein, en termes de mise en scène. Je trouve même que c'est un des films peut-être les plus aboutis de Michael Mann, où il a une sorte de plénitude dans sa mise en scène. En tout cas, c'est un film que j'aime à défendre. Mais on va revenir aussi en arrière, parce qu'il y a un film dont on n'a pas parlé, qui est vraiment le film qui va suivre Le Solitaire. Génialissime, hein, Le Solitaire. C'est un film maudit de Michael Mann. C'est La Forteresse Noire, avec le monstre Molassar, là, qui est un film maudit. Alors, d'abord, parce que le concepteur des effets spéciaux, je crois, est mort pendant le tournage. Enfin, c'était très compliqué pour Michael Mann. Et c'est un film maudit, compris dans sa distribution, qui jouit pourtant, malgré tout, d'un certain culte, qui n'est pas non plus... qui est un film... qui a des maladresses, qui n'est pas complètement réussi, voilà, qui est un des films les plus faibles de Mann, mais qui est en même temps un film assez passionnant. C'est un film malade, en fait.
Bah, c'est aussi un film... Bon, la légende dit normalement, il devrait durer 3 heures, selon le directeur Scott. Michael Mann ne veut plus en entendre parler, à notre plus grand malheur. Et quand on regarde le film, c'est vrai qu'il y a des ellipses qui sont énormes, mais vraiment énormes. Après, il y a de beaux restes, hein. Il y a des choses qui sont très Michael Mann. L'esthétique, c'est du pur Michael Mann. Et il y a ce personnage de Molassar, quand on regarde bien, et il est dans le roman original, c'est un simple vampire avec une cape. Hein. Donc il y a une Kibidal qui lui en a fait quelque chose, un personnage. Bon, le personnage est... finalement, le monstre est assez simple, hein, dans son esthétique.
C'est une métaphore du nazisme, hein, pour l'expliquer un peu aux auditeurs qui n'auraient pas vu le film.
Et il dégage un charisme, un sentiment de menace qui est quand même incroyable. Et il y a cette idée de transformation dans ce personnage, parce qu'au fur et à mesure que l'intrigue avance, il se transforme pour pouvoir se libérer de sa prison, etc., pour pouvoir acquérir de la puissance. Et cette idée de transformation, je la retrouve avec des images très similaires. C'est-à-dire que Molassar a les yeux et l'intérieur de la bouche éclairés par une lumière rouge ou bleue, je ne sais plus, ou les deux. Et on retrouve dans son film suivant, Manhunter, le sixième sens, quand le dragon rouge se voit dans les yeux de ses victimes, et à un moment, il y a un flashback, où justement, les yeux et la bouche de ses victimes sont éclairés pour symboliser le reflet de cet homme qui s'imagine se transformer en quelque chose d'autre. Donc, il y a aussi cette idée de transformation, d'aller vers ailleurs chez Michael Mann, et qu'on retrouve aussi, qui est déjà là plutôt, dans Le Solitaire. Alors, je veux dire, c'est un personnage qui est parti de rien et qui veut aller, justement, qui veut accomplir, qui veut faire partie du rêve américain, en fait. C'est ça. Et quand on regarde bien aussi toute la filmographie de Michael Mann, ce sont la majeure partie de ces personnages, ce sont des personnages qui veulent s'intégrer dans le rêve américain.
D'ailleurs le personnage dans Heat, on peut s'imaginer que c'est une sorte de... ce qu'aurait pu devenir ce personnage du solitaire. Il y a une sorte de continuité comme ça dans les personnages de Mann qui va de film en film. Et tu parlais de Manhunter, qui est sorti sous un titre, en France, Le Sixième Sens, hein, qui n'est pas forcément un titre déconnant, mais comme il y a eu un autre film de Shyamalan qui s'appelle Le Sixième Sens, du coup, on pourrait mélanger les deux films, voilà, alors qu'ils n'ont strictement rien à voir, hein, tous les deux, ils ne racontent pas du tout la même chose. Et c'est un échec, c'est peut-être son premier grand film, vraiment. Enfin, j'aime beaucoup Le Solitaire, mais là, on commence vraiment à rentrer dans l'esthétique, dans son univers... très particulier, là il commence vraiment à trouver sa patte, son style, je trouve, Michael Mann, avec ce film. Pourtant c'est un flop, hein, puisque c'est inspiré du bouquin de Thomas Harris, Dragon Rouge, hein. C'est un flop, ça marche pas du tout, et pourtant, par la suite, les bouquins de Thomas Harris vont devenir des adaptations à succès, y compris d'une série télé, ma foi, assez passionnante, et d'une série de films, relativement qualitatives. Bon, le premier de Jonathan Demme est exceptionnel, mais enfin, pour le reste, c'est moins extraordinaire. Et en parallèle, ce qui est intéressant avec Michael Mann, c'est qu'aussi c'est un des premiers à amener ça. Il y avait Hitchcock avant, évidemment. Mais enfin, Michael Mann se crée en même temps un empire télévisuel. Il y a Police Story, qui fait en parallèle, et il y a Deux flics à Miami. Hein, voilà. Et il crée un univers visuel qu'on retrouve hein, aussi. C'est-à-dire que le cinéma nourrit sa façon de mettre en scène de la télé, mais la façon de mettre en scène à la télé nourrit aussi son esthétique pour le cinéma. Ça donne quelque chose d'hybride. C'est peut-être ça qui fait en fait la modernité du cinéma de Michael Mann. Parce que Le Sixième Sens, quand c'est sorti, ça a désarçonné les spectateurs. Aujourd'hui, quand on le revoit, ça paraît presque contemporain comme film.
Je trouve que cette esthétique-là, elle est déjà présente dans Le Solitaire. Hein. Mais on sent que Michael Mann tâtonne. On sent que le film n'est pas tout à fait abouti quand on le revoit aujourd'hui. Je trouve qu'il accuse un petit coup de vieux. Ça n'empêche pas que... moi, je trouve le film très bon. Hein, mais il accuse un petit coup de vieux et il n'a pas tout à fait cette maîtrise. On sent qu'il cherche un petit peu, même si c'est son style, quoi. Mais il y a un petit truc qui... un petit flottement, quand même, quand on le revoit, le film, aujourd'hui. Surtout, et puis, bon, il y a un director's cut qui traîne. Alors, c'est quand même... Michael Mann, c'est quand même le mec, quand il refait le montage de son film... il ne veut plus entendre parler des montages précédents. Alors, ce qui est très bizarre, parce que ce director's cut de Manhunter est toujours proposé avec le montage cinéma. Alors, il dit que pour lui, le bon montage, c'est le director's cut. Moi, je trouve que le director's cut est beaucoup moins bon. Notamment, il y a une scène à la fin qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe.
Oui, oui.
Moi, je préfère largement le montage cinéma. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même 6 ou 7 montages de Manhunter qui traînent. Il faut tomber sur le bon. Ce sont des westerns. Le Solitaire est un western. Hit, c'est un western aussi. Et Miami Vice aussi, quelque part. Ce sont des westerns urbains, quoi. Et c'est aussi une note constante de son cinéma.
Continuons d'explorer la filmographie de Michael Mann dans cette émission de Culture Prohibée consacrée aux cinéastes états-uniens. Et après les années 80, alors on survole évidemment, mais comme on va écouter après quelques propos de Michael Mann, bande de vénards, on se permet de survoler, hein, parce que traiter l'œuvre d'un tel cinéaste sur une seule émission, c'est... voilà, c'est pas si simple. Alors... après les années 80, la télé, Le Sixième Sens, quand même en fait des échecs en salle, hein, ce qui fait aussi, hein, même s'il est très apprécié de la critique, c'est-à-dire que les critiques sentent qu'il y a quelque chose en plus chez ce cinéaste, que ce n'est pas un cinéaste comme les autres. Il fait, dans les années 90-2000, il devient vraiment un grand metteur en scène. Là, je pense que c'est indéniable. Il enchaîne 3 films exceptionnels. Voilà, je pèse mes mots. Il va y avoir Le Dernier des Mohicans, Hit, et un film qu'on oublie souvent, Révélation, qui est extraordinaire, avec un Pacino au sommet de son art, 15 sur l'histoire d'un type qui veut dénoncer l'industrie du tabac, c'est extraordinaire. Même Russell Crowe l'a bien dirigé, il est fantastique. Et enfin bref, avec 15 premières minutes extraordinaires là, comme ça, du type qui est transporté avec un sac sur la tronche pour pas qu'on voit où on l'emmène et tout. Un monument de mise en scène. Son dernier des Mohicans a été accueilli un peu fraîchement, mais il n'arrête pas d'être évalué parce que là, par contre, je l'ai revu récemment, c'est vraiment du grand cinéma, quoi. Je trouve même que c'est plus réussi que le Nouveau Monde de Malick sur des sujets similaires, beaucoup plus réussi.
Y a pas photo. Rien que la scène finale dans la montagne avec l'utilisation de la musique, moi je trouve ça extraordinaire, quoi. Il a une façon d'utiliser la musique qui est superbe.
Ah mais c'est un maître, hein. Je pense que c'est pour ça que d'ailleurs ça fait vraiment partie de son cinéma pour moi. Dans sa façon de mettre en scène, il y a la musique. Il est indissociable. On ne peut pas dissocier Michael Mann de la musique de ses films.
Surtout que là, c'est une musique qui est vraiment utilisée en contrepoint. Alors là, c'est une scène d'action dramatique. Et la musique, c'est du Biniou, en fait. Et elle est vraiment utilisée en contrepoint. Et je trouve que ça fonctionne super bien, quoi.
Et puis, une fois de plus, hein, ce dernier des Mohicans, ce personnage de Fenimore Cooper, là, c'est le dernier des Mohicans, tout est dans le titre. Mann, il est lui-même le dernier des Mohicans, il représente avec d'autres, mais ils sont pas nombreux, quoi. Avec Eastwood, par exemple, avec, même s'ils sont pas de la même génération, mais enfin, quelques-uns comme ça, à avoir leur cinéma à eux, un univers propre, et à faire leurs films tout seuls comme des grands, et avoir une cinématographie quand même assez irréprochable. C'est vrai qu'il enchaîne du lourd, mais le dernier des Mohicans, c'est lui, quoi. Je veux dire, voilà, c'est clair que pour moi, c'est un personnage. Faudrait peut-être, si on a l'occasion un jour, peut-être, de vraiment le rencontrer dans un autre endroit qu'une masterclass, peut-être échanger avec lui. Mais est-ce qu'il y a une part d'autobiographie dans ce personnage? Qu'est-ce qu'il y a mis de lui-même? Parce qu'il aime son personnage et il en fait quelque chose de très, très fort. Et puis il fait un western, je veux dire. Depuis toujours, il fait des westerns contemporains. Là, il fait un vrai western, mais en se plaçant de l'autre côté du manche. C'est ça qui est intéressant. Et bon, ça ne fait que renforcer. Alors après, il enchaîne avec Hit, il enchaîne avec Révélation, qui a tout pour me déplaire. Hein. Film dossier, film contre l'industrie du tabac, film procès, film avec des journalistes qui font des journalistes sans peur et sans reproche. Alors tout ce qu'on voit dans 10 000 films américains, puis qui nous gonfle un peu, même si c'est souvent bien fait, mais bon, qui est une sorte de formule de film typiquement américain, même certains très grands s'y sont cassés les dents. Je pense au Procès Paradigme d'Hitchcock, je trouve très faible en comparaison. C'est un bon film, mais en comparaison du reste de sa filmographie, lui, il s'en sort. Je dirais même Révélation, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un grand, grand, grand Michael Mann. C'est un de ses meilleurs, c'est un de ceux que je préfère. Et c'est un film qui vous prend aux tripes. Puis ça dure un moment, je crois qu'il dure 2h15, un truc comme ça. Il vous prend aux tripes. Et vous avez, quand c'est fini, on a l'impression que ça vient de commencer. Vous vous dites, merde, c'est dément. Enfin, c'est juste l'histoire d'un mec qui fait un procès à l'industrie du tabac. Et on a l'impression qu'il s'attaque à la pègre de Chicago dans les années 30 et qu'il y a une tension, un suspense. C'est incroyable de réussir un film pareil sur un sujet aussi peu glamour.
Et en même temps, c'est les deux personnages, ceux incarnés par Russell Crowe et Al Pacino, ce sont des purs personnages maniens. Ce sont des personnages qui sont intègres, qui vont jusqu'au bout de leurs idées. Et je trouve que ça prend justement toute l'ampleur avec Heat. Hein. Ce sont dans ces deux films-là où les personnages prennent vraiment toute leur ampleur, des personnages intègres, incorruptibles, qui vont jusqu'au bout de leurs idées, qui ne plient pas, qui ne cassent pas plutôt, parce que parfois ils plient, et qui vont vraiment jusqu'au bout de leurs idéaux. Et ça, c'est du pur cinéma de Michael Mann. Même le dernier des Mohicans, le personnage, c'est ça.
Il y a aussi quelque chose qui est frappant dans ces films-là, enfin dans Révélation surtout, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans le cinéma de Michael Mann, c'est qu'ils sont intègres, ce sont des personnages incroyables évidemment, hein. Ce sont des hommes comme on aimerait en rencontrer dans la vraie vie, parce que c'est des chevaliers sans peur et sans reproche, avec leur zone d'ombre, hein, parce que Michael Mann c'est pas un cinéaste manichéen, en plus c'est ça qui est fort chez Michael Mann, mais c'est aussi des gens complètement vampirisés. Ils sont vampirisés par leur fonction, par leur statut, par leur rôle au sein de la société. Ils ont un rôle à jouer dans l'histoire. Tous les personnages de Michael Mann, même si c'est la petite histoire. Ils ont tous un rôle à jouer dans l'histoire, c'est fabuleux. Ils sont tous inscrits dans une certaine forme de mythologie. C'est ça qui est génialissime chez Michael Mann. C'est un simple hacker devient un personnage mythologique. C'est démentiel.
Et c'est ce qui me fait dire que Michael Mann, je suis persuadé qu'il adore ce film de King Vidor, Le Rebelle, parce que le personnage de Gary Cooper est mythifié dans Le Rebelle. À un moment, on le voit travailler dans une carrière, il est torse nu, et on dirait un dieu grec. Et je suis sûr que c'est un personnage intègre, qui ne fait aucune compromission. Donc je suis sûr qu'il y a une influence du cinéma de King Vidor sur le cinéma de Mann.
Ah, moi ça me paraît évident, hein, cette filiation, elle est plus qu'évidente. Et surtout en comparaison, effectivement, je viens de regarder l'exemple que tu cites, c'est un bon exemple. Hein, la façon dont ils traitent leurs personnages, ça me paraît assez évident. Bon, King Vidor s'intéressait aux pionniers aussi, évidemment, là, on a changé d'époque. Donc Mann s'intéresse à des personnages qui ne sont plus des pionniers, mais qui restent des personnages importants dans leur domaine d'action, parce qu'on ne peut pas dire que des fois ils aient des métiers, mais dans leur domaine d'action, d'intervention.
Bah justement, c'est ce que Mann dit dans une interview que j'ai lue dans Libération. Il dit que lui, il s'intéresse à des personnages qui excellent dans leur domaine. Il dit, je ne vais pas m'intéresser à un blaireau qui ne sait rien faire. Lui, il s'intéresse à des personnages qui excellent dans leur domaine, qui sont des pros dans leur domaine. Donc effectivement, c'est ça qui l'intéresse. Quelque part, ça rejoint cette image de pionnier aussi.
Oui, c'est pas faux. Il y a aussi, moi, en parlant de personnages qui excellent dans leur domaine et de personnages bigger than life, alors lui, il l'est en vrai, c'est Ali, Mohamed Ali, quoi. Mmh. Voilà, c'est Cassius Clay. Moi, son biopic Ali, je trouve que c'est sensationnel comme film. Et la scène où Ali court avec la musique, je crois que c'est Salif Keita.
C'est Salif Keita, oui.
Oh, c'est sublime. Ça me tire les larmes à chaque fois. C'est extraordinaire. Et réussir un tel film avec un acteur pas extraordinaire quand même, hein. C'est-à-dire qu'il a transfiguré Will Smith. Je ne vais pas critiquer Will Smith bêtement comme on le ferait d'autres. C'est pas un acteur nul, mais c'est pas un acteur génial, quoi. Voilà, c'est pas un grand acteur dramatique comme Pacino, De Niro, dans Heat. C'est pas le même type d'acteur, quoi. Et il arrive à le transfigurer. Il le transfigure en tous les sens du terme, parce que même physiquement, il est monstrueux dans le film, quoi. Et en plus, il fait un biopic genre quand même assez difficile. D'ailleurs, il paraît qu'il rebosse actuellement sur un biopic sur Enzo Ferrari, là, actuellement, Michael Mann. C'est ce qui se dit, hein, voilà. Il fait un biopic qui est parmi un des meilleurs jamais réalisés, parce que les biopics, c'est quand même jamais très sympa à regarder. Là, c'est vraiment excellent. À voir, à revoir. Et surtout, ce qui est passionnant, c'est que de cet homme qui est un mythe vivant, au moment où il fait le film, il n'élude absolument aucune de ses failles. Il ne fait pas un film à la gloire de... Il fait un film sur un mythe. Et ça, c'est quand même un point de vue de metteur en scène, réellement. Moi, je trouve ça très fort. Ali, je trouve ça très fort.
c'est son film le plus personnel. Je l'ai revu, j'ai revu notamment son deuxième Director's Cut. moi, je pense que c'est son film le plus personnel. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est celui que je préfère, mais en tout cas, je l'aime beaucoup pour des raisons évidentes. Hein. Il y a aussi ce passage à Kinshasa, là, où il regagne son titre de champion du monde. Et c'est vrai que ce passage, quand il court sur la musique de Saïf Keita, c'est superbe, quoi. C'est très émouvant. Et il y a ce mythe qui ressort, justement. Tous ces enfants qui courent après en criant Ali, Bomaye, etc. Je trouve ça génial. Et ce personnage de Muhammad Ali, quelque part, ça rejoint cette thématique du pionnier. Parce que c'est un homme qui, encore une fois, est allé au bout de ses idéaux, est intègre, a refusé de s'engager dans la guerre du Vietnam au risque d'aller en prison. Il a perdu son titre de champion du monde à ce moment-là. Alors, moi, je trouve que c'est un très grand film. Moi, j'adore ce film. Je le revois plusieurs fois, souvent. Non, pour moi, c'est un très grand film.
Bah, après, de toute façon, c'est un peu sa période magique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a Collatéral aussi hein, qui suit. C'est un peu la grande période, je trouve, de Michael Mann. Là, il est dans une sorte de plénitude. Il rencontre à la fois le succès critique et public. Enfin, tout du moins en France, hein, en tout cas. Voilà. Et effectivement, il est dans une sorte de plénitude de sa mise en scène. Et je pense qu'avec Ali, il a rencontré... son personnage, quoi. Voilà, il a vraiment rencontré une sorte d'alter ego. Alors, pas au sens sportif et tout ça, mais au sens du mythe, quoi, du type qui atteint des sommets dans son domaine. On peut pas dire que Ali, c'est peut-être le plus grand boxeur de tous les temps. Donc, sans être un grand féru de boxe, c'est comme Pelé en football. Enfin, c'est difficile de l'ignorer, quoi. Voilà. Après, il y a des films dont on a déjà parlé. Il y a aussi une série, Luck, qui va être un échec pour lui, qui pourtant est super bien comme série, mais il n'y a qu'une saison, la première saison. Il y a L.A. Takedown, dont on n'a pas parlé, par contre, dont il a fait le remake pour faire Hit, qui n'est pas extraordinaire, mais qui est intéressant dans le sens où c'est le brouillon de Hit. Il y a Hacker, dont on a parlé. Mais enfin, si on est aujourd'hui en train de discuter, pour écouter ensuite Michael Mann lui-même, c'est parce qu'il y a ce nouveau montage de Hit que Michael Mann est venu présenter au Festival Lumière.
C'est un nouveau montage, si on veut, parce qu'il a coupé que deux répliques, en fait. Et sans toucher à la longueur du film non plus. Il a coupé deux répliques, il a mis un autre plan à la place, il a coupé le son. Et c'est surtout, dans ce nouveau montage, il a surtout retravaillé l'image, les cadrages, retravaillé la direction de la photo pour donner un autre sens aux images ou pour appuyer tel ou tel effet. Donc c'est pas vraiment... C'est un director's cut, oui, non, dans le sens où bah, il retravaille la texture du film, quoi, la texture de l'image, la direction de la photographie, etc. Mais il y a juste deux répliques qu'il a coupées, c'est tout. Bah, sinon, c'est Hit, quoi. C'est un grand western moderne, un grand choc des titans.
Eh bien, justement, en parlant de choc des titans, hein, eh bien, on va en écouter des titans, puisqu'on va maintenant écouter Michael Mann lui-même. Pour des propos captés donc par Pierrick Faure hein, lors d'une masterclass animée par Thierry Frémaux et excusez du peu un autre titan hein, le cinéaste mexicain Guillermo del Toro qui était là en fan de Mann donc qui est venu à la masterclass qui s'est assis sur scène parce qu'il avait des questions à poser à Michael Mann voilà ce qui en dit long sur l'importance de Michael Mann parce que un cinéaste quand même bon qu'on aime ou pas tous ses films del Toro c'est quand même un cinéaste passionnant captivant et qui a un point commun aussi avec Mann, c'est que dans sa série de vampires, là, sa métaphore sur le nazisme, là, il a repris l'idée de la forteresse noire et il en a fait une série. Voilà, une série plus série B. Je veux bien sûr parler de The Strain, hein, qui entretient des liens, comment dire, au niveau du monstre principal. Enfin bon, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu The Strain, j'en dirai pas plus. Bon, pour le reste, The Strain est plutôt de la série B pure et dure, bien sympathique, voilà, que quelque chose de profond comme peut l'être le travail de Michael Mann. Et donc, bah, tout de suite, Michael Mann, donc, au micro de Culture Prohibée.
I think what my characters are, the ideas that are in there, inside of them, that motivate them to action, come... in an unpredictable way
from me and not necessarily to the cause them program. But what I found fascinating is conflict. And drama to me is conflict. And the heart of drama is conflict. So somebody in a state of contradiction is always interesting to me. Starting with somebody who is having to fight against the social value system, fight politically. That's what it's always attractive.
Pour la fin bref, je dirais non, mais pour développer davantage, je dirais que pour moi, ce qui meut mes personnages, ce qui vraiment constitue leur motivation profonde, n'est pas forcément en adéquation avec l'environnement, mais c'est plutôt ce que moi j'insuffle en eux, parce que pour moi, le drame, l'enjeu dramatique est nécessairement bourré de conflits. C'est dans le conflit que l'enjeu dramatique peut prendre naissance. Et donc ce conflit-là, c'est une confrontation. Donc un personnage a commencé par le solitaire, un personnage qui doit se confronter à un système établi, il y a un combat à mener, et ce qui m'intéresse et ce qui pour moi est à la source de l'inspiration pour faire des films.
So whether it's Hawkeye facing an uncertain future, and his family already facing inevitable annihilation of the Mohicans, or whether it's Frank and Thief fighting against the kind of corporatized notion of organized crime, which is exactly what it is. These kind of conflicts that really interest me, but only if I can have a story in which I can bring audience into a very intimate, very intimate connection with the character, so that what appeals to me occurs for them, which is that I'm in that person's shoes, I'm in the skin, I'm seeing through his eyes. But that's always the ambition that I have.
Et donc l'ambition qui est la mienne en tant que cinéaste, c'est d'arriver à habiter ce conflit de façon extrêmement intérieure, maintenant que ce soit Anna devant les interrogations quant au futur que sont les siens, que ce soit le personnage du dernier des Mohicans, ou que ce soit, comme on disait, le solitaire où il s'agit de se battre contre l'institution qui peut représenter le crime organisé. Tous ces conflits-là sont des conflits qui, pour moi, sont source d'une écriture dramatique, mais elles n'ont de sens, elles ne font l'objet d'un film que si j'arrive à créer, à partir de cette base de conflits, une histoire suffisamment incarnée, suffisamment intime, suffisamment véridique pour l'enjeu de ce personnage-là, pour que le public puisse s'identifier à cette personne. Qu'il puisse se sentir dans sa peau, dans sa posture, et être mu par la même quête que le personnage.
I think audiences, that people are brilliant. We are smarter than we know we are. Our amygdala, the parts of our brain, as smart animals, we take in way more than we're aware of. And we can usually feel we like something couple of thousands of seconds before the different names. And so to me, everything talks. Everything has a voice. There folds in the curtain in White Man's House, an insider, say something about a woman who spent a lot of time in my book. The Pacino disarray, the way he deals with the performer, from curtains to wardrobe to the choice of a car, I mean, it all, everything speaks. And the deeper you can know that as a director, the more audience can feel, that empathetic connection. So there, I am him. I know what he's thinking. He just went like this. I know what's in his mind. That's what this condition.
ce dont je suis intimement persuadée, c'est qu'en tant que spectateur, nous sommes des animaux extrêmement intelligents et extrêmement vifs, et que lorsque nous nous retrouvons face à une image, une situation quelle qu'elle soit, avant même que notre cerveau puisse exprimer notre ressenti vis-à-vis de cette réalité, nous l'avons déjà en nous, nous savons ce à quoi nous adhérons, ce à quoi nous n'adhérons pas. Et donc, une fois que vous avez compris ça en tant que cinéaste, évidemment, tout est bon à prendre, tout, n'importe quel détail parle et donne de l'information et donne de la vie au personnage. Donc, cette vie-là, le spectateur le perçoit, et donc, c'est en cela qu'il adhère immédiatement au personnage. Donc, bien sûr que j'utilise ces données-là quand je choisis un rigot pour révélation, ou quand je choisis le comportement qui est celui d'Al Pacino avec les indiques, ou dans tous les aspects du cinéma. C'est justement permettre au spectateur, avant même que quelque chose soit formulé explicitement de la part du personnage ou de sa part à propos du personnage, qu'il se dise: ce type-là, je le comprends, je sens ce qu'il sent, je suis lui.
Think about the slave, long time ago, 10 million slaves, across the ocean, they had shackles on their legs. 10 million slaves, across the ocean, they had shackles on their legs. Don't know where they're going, don't know where they've been, don't know where they're going. Don't know where they've been. Sun goes out, you'll be standing by yourself. Sun goes out, you'll be standing. You'll be standing by yourself. 10 million slaves across the ocean, they had shackles on their legs. 10 million slaves across the ocean, they had shackles on their legs. Don't know where they're going, don't know where they've been, don't know where they're going.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée par Pierrick Ford, dit le Capitaine, Thomas Roland, dit le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
Don't know where they're going. Don't know where they've been. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Sun goes out, you'll be standing.